Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la question des armes au Proche et Moyen-Orient. L'actualité autour de l'État islamique n'est pas exempte de questions, notamment sur les sources de la force de l'organisation. Daesh est-elle un pur produit du trafic d'armes ? Difficile de faire de la géopolitique sans prendre en compte les outils qui offrent la puissance à ces acteurs. Le Moyen-Orient et le grand bazar des armes pourraient constituer le titre de cette émission. Photographie d'un théâtre sur lequel se superpose une variété d'États et de nombreux acteurs non étatiques. À l'instar des ventes de pétrole, les ventes d'armes jouent un rôle prépondérant dans les orientations politiques des grandes puissances au Moyen-Orient et expliquent certains de leur réalignement. Il faut dire que l'ampleur des ventes d'armes est stupéfiante et savoir que les pays non industrialisés dépensent trois fois plus en armement que les pays industrialisés. Regard sur la situation avec nos invités. Depuis les studios de nos confrères de Radio France à Lyon, Tony Fortin, président de l'Observatoire des armements. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio à Paris, Éric Danon, directeur général du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, le CSFRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Benoît Muratchol, président de l'association Action Sécurité Éthique Républicaine, responsable de la campagne sur le contrôle des armements, créateur du site Armée des armées et auteur de Quelles frontières pour les armes, apparaître prochainement aux éditions Pédone. Bonjour.
Bonjour.
On sait que l'Orient, pour les grands pays exportateurs d'armes classiques, c'est la poule aux œufs d'or. Ces cinq dernières années, les transferts internationaux d'armes à destination du Moyen-Orient ont augmenté de manière considérable. Les importations saoudiennes ont ainsi enregistré une augmentation de 275% au cours de la période 2011-2015 par rapport à 2006-2010. Celles du Qatar ont augmenté de 279% dans la même période. Augmentation de 35% pour les Émirats Arabes Unis et 37% pour l'Égypte. Ces chiffres ont pour provenance le CIPRI, l'Institut International de Stockholm pour la Recherche de la Paix, selon lequel l'Arabie Saoudite est le deuxième plus gros importateur d'armes après l'Inde pour des populations dont l'importance n'a rien à voir. 28 millions pour l'Arabie Saoudite, 1,5 milliard pour l'Inde, c'est dire les moyens que se donne l'Arabie Saoudite. Situation sécuritaire globale, elle est extrêmement tendue au Moyen-Orient, elle se reflète dans le commerce florissant de l'armement. Entre le Golfe Persique et le Bosphore, les importations d'armements lourds ont augmenté de 61% en moyenne ces cinq dernières années. Et les achats des puissances pétrolières ont triplé. Tony Fortin, la guerre Iran-Irak dans les années 80 a constitué un moment majeur pour le développement du marché global d'armes modernes. Depuis, il n'y a pas eu de répit dans la région. 2003, l'invasion de l'Irak a été un nouveau tournant. Et là, les niveaux atteints sont inégalés. Les printemps arabes sont passés par là.
Oui, tout à fait. Ben, ce qu'on constate tout d'abord, c'est que la France n'est pas en reste, hein, puisque ses exportations d'armes ont augmenté de 6 à 16 milliards d'euros de 2014 à 2015. On peut évidemment évoquer le cas des États-Unis. On sait aussi que Obama a vendu plus d'armes en 4 ans que Bush en 8 ans. Donc tout ça reflète quand même l'idée que l'explosion du nombre de conflits consécutifs ou non au printemps arabe est un formidable catalyseur pour les ventes d'armes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement le rôle politique des États, le débat public dans ces États qui n'existent pas, enfin notamment en France, puisqu'on a quand même du débat dans un certain nombre de pays européens, comme en Allemagne, au Royaume-Uni, sur l'opportunité de ces exportations d'armes. Débat qui n'existe pas aujourd'hui en France, alors que cette corrélation entre l'explosion du nombre de ventes d'armes et ces conflits est tout à fait préoccupant. On peut prendre l'exemple aujourd'hui du Yémen, où un certain nombre d'armes françaises sont utilisées au cours du conflit, d'armes françaises vendues ces dernières années. On peut effectivement parler des chars Leclerc vendus aux Émirats Arabes Unis qui sont en démonstration et donc qui se sont même retrouvés en pénurie d'obus et la France a dû leur livrer ces obus en urgence, de même que les Mirage 2000 qataris. Et tout ça ne freine manifestement pas nos dirigeants français, puisque bien que ce conflit au Yémen notamment s'enlise, on s'aperçoit que la ligne de front a pas évolué depuis plusieurs mois, qu'il y a 30 000 blessés, 60 000 morts, 85% de la population sous assistance humanitaire. Et ben, pendant ce temps-là, en 2015, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, négocie la vente, effectivement, de Mistral à l'Égypte, de Rafale au Qatar, à l'Égypte, et en début 2016, réfléchit à vendre des chars Leclerc à l'Arabie Saoudite et les Rafales aux Émirats Arabes Unis.
Tony Fortin, donc, je vais reprendre la main pour proposer à Éric Danon et Benoît Muratschel de répondre. La France, bien sûr, Éric Danon, il n'en reste pas moins que les États-Unis sont les plus gros exportateurs d'armement dans le monde et notamment au Moyen-Orient.
Oui, oui, il faut à la fois parler de la France parce que ça nous concerne plus directement, mais peut-être d'abord faire un petit tour d'horizon et dire ce que vous avez rappelé au début. Tous les vendeurs d'armes de la planète essayent d'être sur le marché du Moyen-Orient. Les principaux, c'est-à-dire les 5 du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, ça représente à peu près 80% des ventes sur la zone.
On peut les rappeler,
États-Unis. États-Unis, Russie. Ensuite, dans l'ordre, alors suivant qu'on regarde les armes livrées ou les contrats, on mettra la France ou la Chine et la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui se tiennent à peu près. Pour que les auditeurs aient une idée, les États-Unis, ça représente à peu près 50% des ventes, et la Russie autour de 15%, hein, et puis après les autres sont à peu près à égalité. Encore une fois, c'est toujours difficile parce que on peut prendre les statistiques suivant les armes livrées ou suivant les contrats. Mais ce qu'il faut rappeler aux éditeurs et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça explose à la hausse depuis 2-3 ans. Et que là, quelle que soit la manière de comptabiliser, c'est une véritable course aux armements qui est sur la zone, où tous les vendeurs essayent de se placer pour des raisons différentes. Et en fait, il y a derrière la dimension économique une dimension politique avec des enjeux différents suivant les uns et les autres. On peut peut-être en dire un mot très très court. Les États-Unis d'abord. L'idée de base qu'il faut garder, c'est que les États-Unis exportent parce que Obama a décidé qu'il n'enverrait pas des troupes au sol dans le conflit avec Daesh. C'est un élément essentiel. Il compense ceci par l'export, en disant en fournissant des armes à ses alliés. C'est ce qu'on appelle la doctrine Nixon, qui après l'enlisement au Vietnam avait fait des choses assez comparables en Iran. Eh bien là, après ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan, la décision politique étant de ne pas y aller soi-même, si l'on peut dire, eh bien on fait faire le travail par d'autres, et pour ça on fournit des armes. C'est un élément essentiel. Et comme le Pentagone, du coup, achète moins d'armes, commande moins d'armes à l'industrie américaine, eh bien, l'industrie américaine compense en vendant à l'extérieur. La Russie, elle a un dessein politique différent. Elle essaye de se placer, bien sûr, du côté de l'Iran, de la Syrie et de ce qu'on pourrait appeler l'arc chiite du Nord, pour se refaire une place, pourrait-on dire, dans la problématique du Moyen-Orient. La Chine, elle est un très gros fournisseur de munitions, d'armes légères et de petits calibres. Elle va essayer dans les années qui viennent de monter en gamme et de fournir des armements de plus en plus lourds. La France a un dessein très clair qui consiste à dire la base industrielle de défense française doit être maintenu, et pour cela il faut exporter énormément, parce qu'autrement c'est un problème de fourniture à l'armée française de produits français qui va se poser. Donc c'est un choix aussi d'indépendance, pourrait-on dire, dans la fourniture des armes à l'armée française elle-même. Ça ne peut se faire qu'en exportant. Et les Anglais veulent absolument se maintenir sur la zone. Les Allemands, eux, ils testent quelque chose qui consiste à vendre des armes sur un terrain d'opération sur lequel leur propre constitution est à la limite de le leur interdire. Donc voilà, des enjeux différents politiques pour les uns et les autres, et encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que ça monte dans une course aux armements effrénée sur la zone.
Alors chacun avec des agendas différents, comme vient de l'expliquer Éric Danon, Benoît Muratschel, en ce qui concerne les pays exportateurs, ce qui serait intéressant, c'est de voir justement pour les pays importateurs, les agendas également. Un commentaire ?
Oui, premièrement, c'est un énorme business pour les entreprises, donc ça c'est du profit. pour les États, c'est de l'argent moins dépensé parce que, comme le disait Éric Danon, il faut assurer son indépendance, l'approvisionnement de ses propres troupes, etc. Ça, c'est très important. Deuxième point, c'est l'absence de transparence, parce que cette foire aux chiffres, c'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que, bon, la France donne quand même des éléments sur les armes livrées. Entre 95 et 2014, c'est près de 30 milliards d'euros. Mais c'est un des rares pays qui donne des chiffres sur les livraisons. Sinon, c'est, on annonce, alors ils ont annoncé, les États-Unis ont annoncé 100 milliards sur 5 ans. 100 milliards de dollars sur 5 ans. Donc, il y a la nécessité absolue de venir à de la transparence, de façon à ce que les sociétés civiles puissent se placer, dont le Parlement, dont a parlé Eric
Tony
Fortin tout à l'heure. Il est nécessaire d'avancer dans ce domaine. Et puis, un troisième point, c'est bien sûr les intérêts stratégiques de tous ces pays. Même par rapport aux deux alliances qui se... Alors, je mets tout de côté tout de suite ce qui est chiite, sunnisme, christianisme, etc., parce qu'on s'en sort pas et on fait des confusions, des raccourcis. Mais entre la Turquie, qui soutient les takfiris de Syrie et d'Irak, hein, que je n'appelle pas Daesh, parce que pour moi, ils sont ni islamistes, ni un État. La Turquie, donc, qui les soutient. L'Iran, qui soutient Bachar al-Assad. La Russie qui soutient Bachar el-Assad, Lavrov disait, mais il n'y a pas de problème pour livrer des armements, même s'il y a des crimes contre l'humanité, parce qu'il n'y a pas de droit international qui nous empêche de le faire.
Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe.
Pardon, oui. L'Iran qui ne voit pas d'un bon œil la Russie rentrer trop dans la danse non plus, parce qu'elle dit c'est un problème régional, ça doit être résolu régionalement. Les États-Unis qui ne semblent pas avoir de stratégie du tout, mais simplement de défendre leurs intérêts un petit peu historiques, avec, à partir de cette théorie reprise par Brzezinski, de Mackinder et de Spikeman sur le Heartland et le Rimland, des lieux stratégiques, géographiques stratégiques à contrôler, hein, dont font partie cette partie du Moyen-Orient. On est aussi là dans une situation de confusion très très grande. Et la France là-dedans ne semble, elle, pas du tout avoir de stratégie, à part celle de dire, et ce qu'a rappelé Éric Danon, on vend parce que on veut que notre industrie de l'armement survive. Donc, ces situations contradictoires, etc., en ce moment, au Moyen-Orient, eh bien, le résultat de toutes ces contradictions et de ces histoires de dessin des frontières fait que ce sont des millions de personnes qui souffrent de graves violations des droits de l'homme, grave violation du droit international humanitaire, crime de guerre, crime contre l'humanité. Alors, l'armement n'est pas la cause de tout ça, mais l'armement amplifie cette dimension dramatique.
Alors justement, Tony Fortin, la question des conséquences géopolitiques de cette course aux armements. Benoît Mureschel ne parle pas de l'organisation État islamique, mais des takfiristes. Est-ce que l'on peut dire tout de même que l'organisation État islamique est finalement un pur produit du trafic d'armes, sachant que les stocks d'armes en Irak se sont particulièrement renforcés depuis 2003 avec l'invasion américaine, et que effectivement ce sont des hommes qui sont tombés, pas par hasard, parce qu'au fur et à mesure qu'ils conquéraient du territoire, ils ont mis la main sur des stocks absolument colossaux. Donc Tony Fortin, organisation État islamique, pur produit du trafic d'armes?
Alors, je suis pas un spécialiste des organisations terroristes qui ont leur dynamique propre, qui est multifactorielle, qui résulte généralement de situations politiques internes, d'un pourrissement de la situation politique interne, mais qui sont aussi entretenues, effectivement, par un certain nombre de trafics d'armes, de rapts, d'enlèvements. Mais effectivement, il est évident que un certain nombre de trafic d'armes, de vente d'armes peuvent effectivement atterrir en leurs mains. On peut prendre l'exemple aujourd'hui des différents embargos qui ont été mis en œuvre en Libye et qui aujourd'hui subissent des exceptions. Il y a un embargo qui passe sur la Libye où il y a effectivement interdiction de livrer du matériel militaire, mais il y a tellement d'exceptions. Par exemple, il est possible pour un État aujourd'hui de donner du matériel militaire au gouvernement libyen ou... Et donc, en demandant effectivement une autorisation au comité des sanctions, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de contrôle quand on regarde des études, notamment du GRIP sur le sujet, et on s'aperçoit qu'il y a ces dernières années un certain nombre d'armes qui ont atterri dans les mains de différents acteurs, et quand on connaît effectivement la situation en Libye, c'est proprement catastrophique. D'autre part, on peut prendre l'exemple aussi des armes qui ont été lâchées aux rebelles libyens par la France en 2011, notamment des missiles anti-chars Milan, et qui se sont retrouvés aux mains des groupes djihadistes au Mali. D'autre part, il y a un risque de détournement qui est bien présent quand on vend des armes à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, par exemple, a reçu ces dernières années des fusils d'assaut de marque autrichienne Ster, qu'elle diffuse sur le territoire yéménite pour équiper les forces, les milices anti-Houssi. Et ces flux énormes d'armes se retrouvent entre les mains d'ACPA. Alors, on s'aperçoit donc que c'est pas tant l'histoire des trafics d'armes, le fait qu'il existe des trafics d'armes, que du fait que cette vente d'armes conventionnelles, au bout du compte, n'est absolument pas du tout contrôlée. Et ça pointe toutes les limites de la régulation mise en place par le traité sur le commerce des armes. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu interdire les armes, fort logiquement, de façon très très pragmatique, évidemment, mais aussi sous la pression des principaux États exportateurs, et que cette régulation, évidemment, ne fonctionne pas.
Alors ACPA, c'est Al-Qaïda pour la péninsule arabique. Éric Danon.
Oui, tout ça est très juste. On peut distinguer des cas différents. Par exemple, pour Daesh, c'est d'abord, pourrait-on dire, une prise de guerre. C'est-à-dire qu'ils mettent la main sur une partie considérable de l'arsenal irakien. Donc, c'est pas un trafic. C'est juste que devant Mossoul, la garnison régulière fuit et que les autres s'emparent. Donc là, on est dans le cas de la prise de guerre. Il y en a un autre cas qui est la livraison par les pays occidentaux, enfin les pays exportateurs, à des groupes rebelles. Et là, deux cas de figure. Soit le groupe rebelle va changer d'option à un moment et il se retourne contre la main qu'il a nourrie, pourrait-on dire, ou bien le groupe rebelle va perdre la main sur les armes parce qu'il va être battu, etc. Et les armes vont passer à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Et puis vous avez le cas des trafics. Et alors ça, c'est autre chose. Le trafic d'armes lui-même, c'est-à-dire que, notamment pour la question des munitions, eh bien, les munitions arrivent de l'extérieur, elles ne devraient pas arriver, mais par tout un système, j'allais dire mafieux, c'est-à-dire qui est lié au crime organisé local, à la corruption locale, etc., eh bien, des containers entiers de petites armes, de munitions, etc., vont arriver sur la zone, ce qui va permettre à l'arsenal, j'allais dire, de fonctionner, parce qu'autrement, il y aurait tarissement de la source, pourrait-on dire. Donc, il y a des cas différents. Le résultat est toujours le même, c'est-à-dire que il y a des armes qui arrivent sans arrêt dans la zone, mais avec des cas de figure différents. Prenons ce qui s'est passé au début avec l'Arabie Saoudite. En réalité, elle a acheté des armes neuves et sophistiquées, et une partie de ces vieilles armes sont passées à des groupes sur la zone. Donc vous avez aussi des transferts internes à la zone qui sont considérables. Il ne faut pas seulement regarder le Moyen-Orient comme étant une zone avec des importations d'armes, mais il y a aussi des transferts à l'intérieur de la zone qui alimentent les conflits sans cesse et qui sont d'importance considérable. Encore une fois, lorsque on parle d'un convoi moyen, c'est 20 000 Kalachnikovs qui arrivent, enfin, et c'est en permanence aussi toutes les munitions qui arrivent pour alimenter tout cela.
Alors, quand on écoute ce que vous dites, Éric Danon, avec ces ventes d'armes incessantes, ces flots d'armes, sachant que la caractéristique d'une arme, c'est précisément de ne pas être obsolète, en tout cas une durée de vie, et puis plusieurs missions possibles, on imagine bien, et Benoît Muratschol, je vous donne pas la parole maintenant parce que malheureusement on manque de temps, mais je vous promets, je vous la donne au démarrage de la deuxième partie. Donc on imagine bien une situation avec ces armes qui s'accumulent, proche de l'explosion finalement. En tout cas, voilà, et la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure ces importations d'armes déstabilisent ou non le Moyen-Orient. C'est ce avec quoi nous démarrons dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons nos invités, Éric Danon, Benoît Muratschol et Tony Fortin. Dans quelques instants, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique consacrée à la question des armes au Proche et Moyen-Orient, le Moyen-Orient et le grand bazar des armes qui pourrait être finalement le titre de cette émission. Nous retrouvons nos invités depuis les studios de nos confrères de Radio France à Lyon, Tony Fortin, président de l'Observatoire des armements, en studio à Paris, Éric Danon, directeur général du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, le CSFRS, et Benoît Muratschol, président de l'association Action Sécurité Éthique Républicaine et responsable de la campagne sur le contrôle des armements. Éric Danon, dans la première partie de l'émission, nous avons substantiellement développé les agendas des pays exportateurs dont vous avez rappelé qu'ils étaient finalement les plus gros, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quelques mots sur l'Arabie Saoudite dont on voit un agenda se dessiner, j'allais dire presque nouvellement, en tout cas la question iranienne avec l'accord sur le nucléaire fait aussi que l'Arabie Saoudite se sent probablement particulièrement isolée dans la région.
Oui, il faut voir aussi effectivement qu'il y a un agenda pour les exportateurs, mais il y a aussi un agenda politique pour les importateurs. Et le premier d'entre eux, c'est l'Arabie Saoudite. En fait, il y a quatre raisons essentielles à la montée en puissance des importations en Arabie Saoudite. Les deux premières sont d'ordre purement géopolitique et la toute première, c'est la remontée en puissance de l'Iran que l'Arabie Saoudite avait d'ailleurs un peu anticipé. L'accord iranien sur le nucléaire et surtout la levée des embargos à la suite de ça fait que l'Iran va très probablement redevenir une puissance considérable sur la zone. Et donc, cela pose problème, bien entendu, aux puissances de la zone que sont l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Mais d'abord à l'Arabie Saoudite. Sans rentrer dans une problématique entre sunnites et chiites, on voit bien que la question de l'influence sur la zone est considérable. Donc déjà, la question de la puissance de l'Arabie Saoudite face à la puissance potentielle de l'Iran qui va remonter en puissance dans les années qui viennent est une première donnée. La deuxième donnée, c'est la relation avec les États-Unis, qui est une relation d'ordre dialectique. J'ai dit tout à l'heure que les États-Unis, ne souhaitant pas aller au sol, allaient armer leurs alliés pour intervenir dans le cadre de la coalition contre Daesh. Mais en même temps, on voit bien que la relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis s'est compliquée du fait même de l'accord iranien. C'est-à-dire que les États-Unis se sentent obligés, entre guillemets, de conforter l'Arabie Saoudite en disant « Mais non, nous n'allons pas entièrement nous tourner vers l'Iran, vous êtes notre allié encore, et donc nous vous fournissons des armes. » Et l'Arabie Saoudite achète des armes, ce qui envoie un message aux États-Unis. Nous restons, bien entendu, un allié essentiel et vous avez besoin de nous pour votre industrie de défense. D'autant plus que nous posons des problèmes à votre industrie pétrolière avec les prix bas du pétrole. Donc ça, c'est de la géopolitique. Je dirais que même s'il n'y avait pas de conflit, on aurait pu déjà avoir ces deux raisons. Mais ensuite, il y a des raisons qui sont liées au conflit sur la zone. La première, c'est que l'Arabie Saoudite participe à la coalition contre Daesh, d'où la nécessité, entre guillemets, d'un armement, et ensuite fait la guerre au Yémen. Et donc, elle va importer des armes pour mener de front ces deux conflits. Enfin, il y a la question de l'opposition interne en Arabie Saoudite. C'est un pays qui est quand même soumis en permanence à une certaine instabilité. Il y a une opposition sunnites à l'intérieur même de l'Arabie Saoudite. Il y a des gens qui sont pro-Daesh à l'intérieur même de l'Arabie Saoudite. Il y a des problèmes avec les chiites de l'Est de l'Arabie Saoudite. Ce sont des territoires où il y a des champs pétrolifères importants. Bref, il y a un problème interne aussi. Pour toutes ces raisons, l'Arabie Saoudite est montée en puissance et il y a une dimension, je dirais, géopolitique classique de rapport de force entre les États. Mais il y a aussi une dimension, je dirais, qui relève de la participation à des conflits armés sur la zone et d'abord aux deux grands conflits armés actuels, la lutte contre Daesh et la guerre au Yémen.
Et dans la situation que vous venez de décrire, Éric Danon, on voit bien et on sent bien du côté saoudien une volonté de diversifier les fournisseurs d'armes avec une situation finalement qui est plutôt favorable à la France. Et je parle sous votre contrôle, Benoît Muratschol. François Hollande, finalement, depuis le début de son quinquennat, les commandes à l'exportation sont passées de 4,8 milliards d'euros en 2012 à 8,2 milliards, donc presque un doublement en 2014, et des ventes d'armes qui ont presque, voire dépassé les 12 milliards en 2015.
Oui, la difficulté qu'il y a, et ce que je disais au départ, c'est que s'il y avait une stratégie derrière, à moyen et long terme, sur on exporte, on soutient un pays parce que on pense qu'à un moment donné, ces armes vont avoir un effet de stabilité et d'avancée dans les droits de l'homme. Je disais, pendant très très longtemps, on a considéré que la paix et la sécurité, la paix et la stabilité, n'avaient rien à voir avec les droits de l'homme. Et qu'il fallait sacrifier les droits de l'homme parce que de toute façon, on avait cette paix, cette stabilité. Le Moyen-Orient est la preuve du contraire. Donc, je pense que, et ça c'est une avancée d'ailleurs qu'on a dans le traité sur le commerce des armes, où dans le préambule, et Éric Danon a travaillé là-dessus, il y a la paix et la sécurité qui est au même titre que les droits de l'homme, à la même hauteur. Donc ça, ça peut ouvrir quelques pistes de réflexion sur ce qu'on verra après sur la résolution du conflit. Mais fondamentalement, quand on exporte des armes à un pays, c'est une question de politique et de stratégie. Aujourd'hui, il ne semble pas qu'il y ait de stratégie de la part de la France. Et ça, c'est un vrai problème. D'autant qu'il y a des armes exportées par la France qui, peut-être, ont servi à de graves violations des droits de l'homme, du droit international humanitaire, voire des crimes de guerre au Yémen. Ensuite de cela, quand Éric Danon parlait de mafia qui permettait un certain nombre de trafics d'armes, elles sont aussi soutenues par certains États. La Turquie, par exemple, fait passer des armements pour les takfiristes de Syrie et d'Irak, et au point que les services de sécurité turcs qui ont arrêté ces armements à la frontière ont été mis en prison et que les armes ont continué leur chemin. Enfin, de la part de l'Occident, il y a aussi le problème, là aussi Éric Danon en a un petit peu parlé, des armes qui sont exportées pour les groupes opposants à Bachar, qui nous ont été annoncés comme étant démocratiques, droits de l'homme, etc., et qui n'ont absolument rien de cela. Et ce qui est encore plus grave, c'est que Michael Flynn, qui est l'ancien directeur de la DIA, Defense Intelligence Agency, qui est le service de renseignement des États-Unis, dit que depuis 2012, il a alerté la Maison-Blanche avec des rapports en disant « Attention, toutes les armes que nous envoyons au niveau des groupes d'opposition tombent dans les mains de Al-Qaïda, Al-Nusra, ou dans les mains des takfiristes de Syrie et d'Irak. » Cela veut dire que tous les pays occidentaux savent que quand ils envoient des armes là-bas, ces armes renforcent, je dirais, alors Al-Qaïda, takfiristes, les fondamentalistes qui sont sur une idéologie de destruction de l'autre comme un autre. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait profondément interroger les différentes capitales occidentales. Et aujourd'hui, bien peu s'interrogent. Alors, l'Allemagne a quand même dit, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, qu'elle arrêtait les exportations d'armes en Arabie Saoudite. Mais beaucoup d'armes françaises qui arrivent en Arabie Saoudite ont du matériel allemand. Alors, donc, la question n'est pas encore...
Alors, les trafics mafieux qu'évoquait à l'instant Benoît Muratschol, je vous repasserai la parole tout de suite après Tony Fortin. Rapidement, Éric Danon, il y a aussi la corruption qui vient s'ajouter à ça. Donc finalement, on se retrouve quand même dans des situations extrêmement chaotiques.
C'est fondamental. La corruption, depuis toujours, est très liée à la question des transferts d'armement. En gros, il y a deux types de corruption. La grande corruption et la petite corruption. La grande corruption, c'est celle qui correspond à l'achat des armes et au choix de l'acheteur. C'est vrai que sur les très grands contrats, le choix est essentiellement politique. Et la corruption n'est pas le sujet essentiel. Il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ces grands contrats et tout le monde, entre guillemets, s'y retrouve, mais c'est pas de la corruption au sens propre. Ce qui est corruptif, c'est tout ce qui vient après. Ce sont tous les intermédiaires, tout ce qui va faire qu'un pays va acheter des armes, et ça arrive très souvent, dont il n'a pas fondamentalement besoin, parce que derrière, il y a des commissions, des rétro-commissions qui vont intéresser tout le monde. La situation, de ce point de vue-là, s'est un peu améliorée depuis les grandes conventions anticorruption, la convention sur l'OCDE, la convention de Miami, sur le fait que de façon générale, le climat général des affaires a changé dans le monde et la corruption a globalement un peu régressé sur les grands contrats. Mais quand même, les armes attirent la corruption. Ce sont des contrats qui se font au plus haut niveau, qui sont des contrats confidentiels, sur lesquels il n'y a aucune transparence et sur lesquels il y a beaucoup d'argent. Bah, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait de la grande corruption dessus. Et puis il y a la petite corruption. Celle-là, elle concerne l'acheminement du matériel d'occasion. D'un conflit à l'autre, vous avez des containers entiers d'armes qui circulent d'un point à l'autre de la planète. Ce sont des armes de seconde main, mais qui font des dégâts considérables. Comme vous l'avez rappelé, les armes ont une durée de vie importante et les Kalachnikovs, ça dure longtemps. Et donc, vous avez des containers entiers qui vont d'un endroit à l'autre. Pour arriver à destination, il faut corrompre toute la chaîne de façon à ce que l'acheminement aille jusqu'au bout dans la discrétion. Ça veut dire corrompre le douanier pour qu'il ferme les yeux quand le conteneur passe. Ça veut dire laisser au chef de guerre qui maîtrise un territoire et si le convoi passe par ce territoire, faut lui laisser quelque chose. Si vous avez, je sais pas moi, 30 000 Kalachnikovs qui passent, et vous allez en laisser 500 au passage pour que ça puisse passer dans la plus grande discrétion, etc., etc. Et donc vous avez là ce que j'appellerais la petite corruption qui ne correspond pas à la décision d'achat, mais qui correspond à la capacité d'acheminer l'arme jusqu'à son point de destination.
Alors, comment mettre un terme à tout ce bazar des armes? C'est un peu la question que j'ai envie de poser. Et finalement, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, le traité sur le commerce des armes qui a été signé à New York il y a 2 ans et demi, signé par les Américains, mais toujours pas ratifié donc par les États-Unis. Il n'a même pas été donc signé ni par la Russie, ni par la Chine. Tony Fortin, quelle solution ?
On voit bien quand même que le commerce des armes au confluent de différents intérêts, facteurs géostratégiques, économiques, et on peut pas le prendre uniquement sous une seule dimension, puisque sinon on affronte des impasses. Donc l'idée, c'est quand même d'ouvrir un débat public en fait sur la question des ventes d'armes. À partir du moment où on n'arrivera pas à questionner le fait qu'effectivement derrière les ventes d'armes, il y a un certain nombre d'emplois, il y a une industrie et que c'est à mettre en balance avec les engagements internationaux de la France, à partir du moment où on n'aura pas une vision globale de ces enjeux et que ça ne sera pas mis en débat dans l'espace public de façon permanente par le biais, pourquoi pas, comme à l'instar du Royaume-Uni, des Pays-Bas, par le biais d'une commission qui évalue les exportations et qui précisément peut jouer un rôle d'alerte dès lors qu'elle concerne des destinations sensibles comme les pays du Moyen-Orient, on ne pourra pas avancer. Donc il faut à tout prix qu'on puisse mettre en place, notamment en France, effectivement une commission parlementaire qui puisse aborder tant les aspects économiques que effectivement le respect des ventes d'armes aux droits de l'homme et qui puisse surtout s'interroger sur quels bénéfices on tire de l'aggravation des crises au Moyen-Orient. On voit bien ce qui se passe effectivement en Syrie, on voit également ce qui se passe au Yémen avec un conflit qui s'enlise, qui pourrait ramener à terme un flot de réfugiés supplémentaires vers l'Europe. Donc il faut quand même mettre tout ça dans la balance et voir si effectivement le fait qu'on vende des tombons d'armes à ces régimes du Moyen-Orient, est-ce que ça risque de nous être profitable, surtout quand on regarde la situation en Europe très tendue sur le plan de l'accueil aux réfugiés et en termes évidemment d'austérité. Je crois qu'il faut aussi revenir évidemment sur les conséquences humaines de ces ventes d'armes sur les populations civiles et le fait qu'on devrait suspendre dès maintenant toute négociation vers des pays qui sont engagés dans des guerres et qui violent le droit international humanitaire comme l'Arabie Saoudite qui n'est pas simplement engagée dans une guerre mais qui bombarde des hôpitaux, qui bombarde des infrastructures civiles, qui bloque l'aide humanitaire. Les ONG sont obligées de demander un passe-droit à l'Arabie Saoudite. Donc ça, l'article 6 le demande très clairement. L'article 6 du traité sur le commerce des armes.
Éric
Dès
Gagnon,
que l'État a connaissance, effectivement, qu'il y a des violations du droit international humanitaire, elle doit bloquer tout transfert. Et c'est tout le contraire qui se passe avec la France, actuellement, qui négocie, effectivement, la vente d'armes supplémentaires aux Émirats Arabes Unis et à l'Arabie Saoudite, actuellement.
Alors, Éric Dagnon, évidemment, tout est lié. L'armement au Moyen-Orient, l'accroissement de la violence, des populations civiles, évidemment, les premières visées, et puis le flot de migrants en Europe, la boucle est bouclée.
Tout à fait. Et il faut quand même partir de la situation dramatique des gens dans ces pays. Enfin, on s'est retrouvé avec deux pays totalement détruits que sont la Syrie et l'Irak, des flots de réfugiés, un drame humanitaire colossal au Yémen. Enfin, tout ça est un désastre, disons le mot, quoi. Alors, savoir si c'est le conflit qui fait l'apport des armes ou les apports des armes qui font le conflit, ça fait 2000 ans que c'est la poule et l'œuf et que tout ça marche totalement ensemble et que il faut bien commencer par quelque chose. Et donc on peut commencer effectivement en disant il faut une solution politique et le flot d'armes s'arrêtera, ou bien on commence par arrêter le flot d'armes en espérant que ça va aider à trouver une solution politique. Alors, à titre totalement personnel maintenant, je ne crois pas malheureusement possible de tarir le flux des armes et des munitions dans la zone, tellement la zone est ouverte et tellement il y a de protagonistes engagés dedans. Mais d'autres pourraient dire il faut commencer par se battre en ce sens. Je n'y crois pas, je dirais, d'un point de vue pragmatique simplement. Mais je serais le premier évidemment à m'en réjouir si je pensais que c'était possible. La deuxième chose, c'est que il y a actuellement des objectifs purement militaires, qui sont devenus la priorité, y compris de puissances occidentales. Je parle évidemment de la destruction de Daesh. Et en réalité, comme c'est une situation très complexe à multiples enjeux, il s'agit de savoir quel est l'enjeu principal du moment à court terme. Et l'enjeu principal, c'est la destruction de Daesh. Évidemment, quelles conséquences cette destruction de Daesh ou la volonté de détruire Daesh entraîne à moyen terme et à long terme, c'est une question qu'il faudrait se poser en permanence. Et dans les ventes d'armes, comme dans toute politique internationale menée, il faudrait introduire du temps long et une vision longue de quelle sera la situation une fois que, je dirais, les armes vont se taire. Probablement, on va se retrouver dans une situation de désastre et d'un tout à reconstruire. Et ce sera extrêmement difficile, je pense. Donc, je dirais presque le pire est à venir. Mais en attendant, quelle est la première étape ? Eh bien, soit on attaque le problème plus tôt par des conférences de nature politique, soit on commence par tarir le flux des armes de façon à modifier la situation de rapport de force entre les belligérants sur la zone. Un tout petit mot pour finir. Vous avez quatre types de belligérants sur la zone. Les pays qui ont la maîtrise de leur territoire et qui achètent des armes dans le cadre, j'allais dire, de leur armée régulière. Les pays qui ne maîtrisent pas leur territoire, comme l'Irak et la Syrie, qui achètent ou reçoivent des armes pour essayer de reconquérir quelque part leur territoire, les acteurs non étatiques qui sont très nombreux, et puis vous avez tous les belligérants extérieurs de la coalition, ça fait plus de 20 pays qui envoient des bombes sur la région à longueur de journée. Beaucoup d'acteurs différents, donc une situation politique et militaire, simultanément extrêmement complexe, comme tout le monde le sait, autrement on aurait trouvé la solution depuis longtemps.
Benoît Muratschel, en guise de conclusion.
Non, alors, je rejoins Éric Danon sur la complexité, mais la complexité n'empêche pas de discerner. Et ce que je disais tout à l'heure quand même, c'est que les États aujourd'hui occidentaux qui diabolisent les takfiristes de Syrie et d'Irak continuent de les alimenter en armes. Donc là, il y a des choses pratiques qui peuvent se faire. D'abord, la résolution ne peut être que politique, je pense que tout le monde est d'accord. Il y a besoin que ce soit une résolution qui se fasse au niveau des États régionaux. Les États internationaux peuvent aider dans cet assèchement. Parce que les armes viennent de chez elles, il faut qu'elles arrivent à mettre sur place, sur la table, tous leurs enjeux économiques sur les gazoducs. Il y a des intérêts entre les gazoducs iraniens, syriens, les gazoducs qataris qui sont en conflit. Il faut mettre ça sur la table. Il faut effectivement aussi mettre un certain nombre de choses avec la Russie, de reconnaître que la Libye a été un immense échec. Et ensuite, il faut montrer que les États qui produisent ces armes peuvent aussi développer leurs énergies, leurs moyens pour assécher. On peut avoir toutes les armes que l'on veut, si on n'a pas les munitions pour les utiliser, on ne peut pas s'en servir. Et aujourd'hui, le traité sur le commerce des armes, qui représente 82 États parties, peut permettre cela. Il s'agit simplement maintenant de créer les rapports de force de façon à ce que ce soit mis en place.
Donc ça fait pas mal de choses à mettre en œuvre. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Depuis les studios de nos confrères de Radio France à Lyon, Tony Fortin, qui est président de l'Observatoire des armements. En studio à Paris, Éric Danon, directeur général du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, le CSFRS, et Benoît Muratschel, président de l'association Action Sécurité Éthique Républicaine, responsable de la campagne sur le contrôle des armements et auteur de Quelles frontières pour les armes apparaître prochainement aux éditions Pédon. Vous pouvez retrouver l'émission qui était réalisée en partenariat avec l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.